Ma réflexion part de cette phrase de l'Évangile que nous avons entendue aujourd'hui. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on vous fasse. Le biais par lequel je prends cette phrase-là va certainement vous étonner. Moi aussi d'ailleurs. Mais ça me fait penser, enfin je vois l'illustration de cette phrase-là dans des réflexions, des conversations qui sont de plus en plus fréquentes, notamment dans nos milieux chrétiens, hélas pas exclusivement, où à notre époque, et je me fais je reflète par là des conversations que j'ai eues ou entendues, auxquelles j'ai participé ces derniers temps pendant mon absence du monastère, là, trop longue, où conversations qui manifestent ce qu'on pourrait appeler à tort, mais ce qu'on pourrait appeler peut-être une forme de pessimisme ou de lassitude des chrétiens vis-à-vis du monde, où nos propos, humainement parlant, ne sont pas toujours des propos optimistes. Force de constater une dégradation de l'organisation du monde, une dégradation des mœurs, non seulement d'une manière générale, mais aussi d'une manière individuelle. Et à part moi, je ne juge personne. Et la question se pose vite. Et là, je grossis là, intentionnellement le propos. Et finalement, si c'est ça, si le monde est aussi dur et aussi pervers qu'on le ressent quelquefois, la vie vaut-elle encore la peine d'être vécue ? Et ou bien alors, la vie vaut-elle encore d'être vécue dans nos pays ? Et c'est à ça que... C'est sur ça que je voudrais attirer votre attention. Et d'abord, quand je dis, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue au moins dans nos pays ? Trouvez-moi un autre où c'est mieux. Ou trouvez-moi un autre où ce sera mieux pendant longtemps, autrement que quelques années où on peut encore trouver un refuge. Bien sûr. Il y a des pays qui sont plus agréables à vivre. Allez en Bretagne, par exemple. Vous allez voir, ça sera plus facile. À la presse de la Coson, à l'étranger, je veux dire. J'en reviens. C'est pour ça que je plaisante. Pour des Bretons. Mais il n'y a pas beaucoup de refuges. On n'a pas beaucoup de refuges. De refuges définitifs. Et dans ce... De cela, on était... prévenu par le Christ lui-même, qui nous a dit que quand le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, reviendrait sur la terre à la fin des temps, est-ce qu'il trouvera encore la foi ? Et la foi n'est pas simplement une croyance, c'est un mode de vie, une manière de vivre, la manière de vivre comme disciple du Christ. Donc il ne nous a pas laissé prévoir des jours plus faciles. Et alors, est-ce que ça vaut la peine de vivre ? Est-ce qu'il est possible de vivre ? Est-ce qu'il faut suivre ou il faut se laisser aller dans une certaine décadence et de jouir de cette décadence ? Et l'optique chrétienne, je ne dis pas la réponse, je pourrais presque dire comme ça, mais l'optique chrétienne... face à ce monde, c'est que oui, ça vaut vraiment la peine de vivre dans ce monde et d'y vivre avec joie et enthousiasme. D'abord, à aucune période de l'histoire du monde, la vie n'a été facile. Les difficultés en fonction de notre évolution, en fonction de notre psychologie, en fonction de notre sociologie, en fonction de nos connaissances, de notre formation, de notre vie spirituelle, de nos connaissances. En fonction de tout ça, Dieu a laissé à chacun toujours les moyens de pouvoir s'épanouir profondément, et le diable, le démon, les forces du mal suscitées par le démon ont toujours essayé de contraindre l'homme à choisir le mal plutôt que le bien, et finalement à se rendre malheureux. Il n'y a aucune période et aucun lieu où ça a été plus facile. Les difficultés ont été différentes, mais jamais ça a été plus facile. On pourrait rêver. Ah, ça aurait été mieux si j'avais vécu du temps des apôtres. Ça aurait été mieux si j'avais vécu du coup avec Saint Jean Chrysostome ou Père Emilianos. Peu importe. Non. Les difficultés auraient été autres. Mais il y a toujours cette difficulté-là. Et aujourd'hui, et à chaque époque a été pour les hommes et pour les chrétiens un défi à relever. Et ce défi-là, c'est le défi de la foi, comme je vous le décrivais précédemment, c'est-à-dire non pas simplement un défi de l'adhésion à une doctrine ou à une croyance, mais l'adhésion à un mode de vie qui nous dépasse. Et alors, quelle est dans à notre époque, aujourd'hui, dans les difficultés dans lesquelles nous sommes et dont nous parlons souvent parce qu'elles nous pèsent lourdement sur les épaules, et on trouve un certain réconfort à analyser ceci, à le partager, à ne pas se sentir isolé dans le support de ces difficultés, de manière à essayer de trouver aussi ensemble, et je devrais dire plutôt en Église, mais en Église, pas toujours tout le monde réuni, mais au moins quelques-uns, mais en Église, c'est-à-dire avec la foi et la conscience de notre unité dans l'Église, avec l'Église de tous les temps et de tous les lieux. La réponse est contenue dans cet évangile que nous avons entendu aujourd'hui. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Où peut se trouver notre joie? Où peut se trouver notre enthousiasme malgré ou au-delà ou à travers ou avec ou grâce? Eh oui, on peut le dire aussi. Grâce aux difficultés dans lesquelles nous trouvons. Eh bien, si on veut parler théologiquement, on dira que c'est à travers la participation avec le Christ à sa transfiguration, à travers la croix et la résurrection, auquel on est amené à participer et à répondre sur le monde. Théologiquement, on peut dire, on peut peut-être affiner, mais en gros, on pourrait dire comme ça. Mais concrètement, comment participer à cette transfiguration? C'est justement en acceptant avec joie, j'ai pas dit avec plaisir, mais en acceptant avec joie que Dieu, et en reconnaissant que c'est Dieu qui volontairement a organisé les choses en ce sens, pour nous mettre en ce lieu, ici et maintenant. À cette époque, pas au Moyen-Âge, pas dans 500 ans si la Terre existe encore à ce moment-là, pas avec les hommes préhistoriques non plus, mais concrètement au 20e, 21e siècle et dans ce pays. Où il y a, j'ai pu encore le constater pendant mes pérégrinations de ces 15 jours, allant des Alpes au fin fond de la Bretagne et l'Auvergne, où il y a présent, vivant, une mentalité, des racines visibles, vivantes, de la présence du Christ à travers les saints et à travers ce que les hommes de foi, les disciples du Christ, ont laissé, et qu'on peut reprendre, auquel on peut s'accaparer, si je puis dire, de manière à leur faire donner de nouveau et en permanence du fruit pour le répandre et le donner en patrimoine à ceux qui nous suivent. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Qu'est-ce qu'on voudrait que l'on nous fasse ? On voudrait qu'on nous donne le bonheur. Quel bonheur ? Est-ce un bonheur seulement qui dure quelques années ? Et ça, ce n'est pas du pessimisme de dire ça. Est-ce un bonheur de quelques années, simplement le temps de notre vie ? Et vous savez le temps que ça dure, 70 ans ou 90 ans, voire 110 quelquefois, mais un peu plus rarement. Mais c'est quand même relativement court, surtout quand on arrive justement plus ou moins en fin de vie, on a l'impression que le temps a couru bien vite. Et qu'est-ce qu'on a eu le temps de faire ? Donc, c'est pas trouver ce bonheur-là pendant... C'est trouver le bonheur d'une vie qui est éternelle. Qu'est-ce que ça nous sert d'avoir une vie bien heureuse pendant 90 ans ? C'est à partir du moment où il faut l'abandonner, la laisser. La seule chose que l'on peut souhaiter qu'on nous fasse, c'est de nous donner l'impossible... mais le rendu possible par le Christ, de nous donner la vie éternelle, c'est-à-dire ce bonheur qui ne cessera jamais. Et notre vocation, notre place, le sens de notre vie vient justement de cette adhésion, de cette foi, de cette conscience que le Seigneur nous a mis sur terre de manière à nous faire accéder à ce bonheur éternel auquel il faut se prêter aussi à la circonstance, c'est ce qu'on appelle la conversion, mais avec une conscience, une vision, une expérience de la expérimentale, une conscience de la foi, une conscience avec la foi, pas avec les sens, quelquefois, ça peut arriver, mais avec la foi essentiellement, une conscience de la présence transfigurante du Christ dans notre monde, et de manière à la faire partager aux autres. C'est le rôle, par exemple, des parents de partager cela, de transmettre ce patrimoine-là à leurs enfants. C'est le patrimoine aussi que l'on peut transmettre à travers nos professions, à peu près quelles qu'elles soient, presque, et même si on ne peut pas parler de notre foi, par la vie spirituelle, par la conscience de prière intime, c'est-à-dire la conscience de la présence vivante de Dieu en nous, qui nous fait nous mouvoir, qui nous fait œuvrer dans ce monde afin que Dieu y soit connu. Comment il s'appelle, Alexis cure les dents de ses patients, s'il le fait avec dégoût, répugnance et uniquement pour gagner de l'argent, ça lui rendra peut-être une vie aisée pendant qu'il sera en train de travailler, moi pas spécialement, non. Mais s'il le fait en ayant conscience que c'est le corps du Christ qu'il soigne, à ce moment-là, de fait, la personne, même si elle est athée, qu'il soigne, bénéficie du rayonnement de la présence du Christ en lui. Il devient à ce moment-là aussi le Christ qui se penche sur les plaies des hommes. et pas simplement des plaies physiques, non seulement des caries, disons, pour garder l'exemple, mais aussi sur les malheurs intérieurs, moraux ou spirituels. Et c'est tout cela pour dire que dans nos difficultés, il faut toujours avoir cette conscience que le Christ les a prises sur lui en s'incarnant, qu'il est devenu ce que nous sommes, et qu'il nous donne la possibilité de, en communion avec lui, donc en portant notre croix, qui est la sienne, parce qu'il l'a portée pour nous, et la croix n'est jamais une partie de plaisir, mais en portant cette croix-là, c'est il nous donne la force par l'Esprit Saint, il nous donne la force de le dépasser et de rendre positif quelque chose qui aurait été négatif, de rendre joyeux une tristesse, de rendre sain la maladie, c'est-à-dire de dépasser notre condition humaine déchue et de nous amener déjà maintenant, ce qui n'est sensible que par la foi, ce qui n'est perceptible que par la foi, nous amener déjà à une certaine expérience de la vie éternelle et du royaume des cieux. Après, si cette vision-là est réelle, je vous assure qu'elle l'est, mais enfin, tout le monde peut ne pas la ressentir, si ceci est vrai, est-ce qu'on va renoncer ou cracher sur ou nous décourager avec les difficultés qui sont les nôtres? Il y a 15 jours, nous célébrions la fête de la Sainte Croix. Le Seigneur nous dit, si vous voulez, celui qui veut venir à moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et c'est suivre le Christ où? Pas uniquement sur la croix, mais à travers la croix, de le suivre aussi sur le lieu de la transfiguration, c'est-à-dire dans le mystère de la transfiguration. Ainsi, avec beaucoup d'humilité, avec la conscience de nos faiblesses personnelles ou individuelles, à travers nos échecs, à travers les oppositions que nous avons dans le monde, à travers notre solitude, souvent d'une manière ou d'une autre, si nous portons par notre conversion et par notre prière la présence du Christ en nous, à ce moment-là, on a petit à petit, le Seigneur nous apprend à voir autrement le monde. Et ce qui nous paraissait négatif, ce qui nous paraissait mauvais, si vous voulez, devient au contraire une méthode, une manière, une lumière nouvelle, un éclairage nouveau sur le monde. Le Christ est la lumière du monde. Et dans la mesure où on est attaché au Christ, on est aussi une lumière qui ne nous sentons pas briller, puis ne nous prenons pas pour des lumières, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais à travers nous, le Seigneur brille dans le monde. Le monde ne le voit pas. Et nous sommes du monde, dans la mesure où nous sommes du monde, dans ce monde et du monde, nous ne voyons pas cette lumière. Mais la lumière, elle existe. Et le support joyeux, c'est-à-dire plein d'espérance, de notre monde et des conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, ici et là, comme je vous disais tout à l'heure, ce support-là, cette joie-là, illumine le monde et le monde a besoin de cette lumière. Et c'est une grâce de Dieu, un miracle de Dieu, que le Seigneur nous prenne pour ses collaborateurs de manière à ce qu'on le fasse briller dans le monde. Que le Seigneur brille dans le monde, ça dépend de nous, ça dépend de notre bonne volonté, ça dépend de notre foi. Mais évidemment, vous comprenez bien que si c'est ainsi, il faut évidemment essayer, dans la mesure de nos possibilités, avec notre faiblesse, Il faut essayer de vivre selon les principes de l'Évangile, c'est-à-dire de mettre avant tout que notre premier bien, que notre premier but, notre première richesse soit le Christ. Et comme il dit ailleurs dans l'Évangile, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu c'est la vie divine. Cherchez donc d'abord la vie divine, et après le reste vous sera donné par surcroît. Donc, et si nous voulons, faire aux autres ce que vous voudriez qu'on nous fasse, la première chose, c'est d'accepter notre condition avec joie et d'attendre tout du Seigneur, non pas pour une réussite humaine, mais pour que tout ceci nous conduise vers le royaume des cieux, qu'on peut aujourd'hui un peu percevoir, et notamment on le perçoit à travers la splendeur de la liturgie et de la prière. La liturgie est une expérience du reflet de la lumière divine, de la lumière de la vie divine dans le monde. La liturgie, c'est déjà une expérimentation, à condition de ne pas être sorti toujours pour aller fumer, boire un coup ou danser sur le parvis de l'église, ce que vous ne faites pas, donc c'est pas pour vous que je décris, mais la liturgie consciemment vécue, même si on est plein de parasites et d'idées autres, même si on a plein de distractions, malgré tout, si on est né à la liturgie, on perçoit quelque chose du rayonnement de la gloire de Dieu. C'est la vie divine, c'est la présence de Dieu avec les anges, avec les saints qui se montrent visiblement à travers les symboles, à travers les prières, à travers les icônes, à travers notamment les sacrements et l'Eucharistie, etc. Et c'est cela que nous devons percevoir où que nous soyons, même si on est dans un monde où on n'est pas près d'une église et on ne peut avoir la liturgie qu'une fois par mois, une fois tous les 6 mois, une fois par an par exemple, ça peut arriver dans certaines situations. La situation n'est pas désespérée, il suffit d'avoir cette liturgie une fois par an par exemple, pour que toute notre vie en soit illuminée. Mais il faut aussi évidemment que dans le reste de l'année, par notre prière, par notre orientation vers Dieu, on vive de cette lumière que nous avons reçue à la liturgie. Et n'ayons aucun doute là-dessus, si le Seigneur permet que nous soyons dans les difficultés, que nous soyons isolés, que nous soyons dans un monde opposé à cette vision, cela est utile pour le salut du monde, à condition que nous tenions bon jusqu'à la fin. Et c'est là que vient notre joie, et c'est ça qui donne un sens à notre vie et qui nous permet, non seulement qui nous permet de supporter les difficultés, mais c'est ça qui nous permet à ce que les difficultés deviennent un motif de gloire, pas de gloire personnelle, pas de fausse gloire, mais de la gloire qui vient de Dieu, comme la croix qui n'est pas une chose bonne en soi, mais qui est transfigurée, qui devient un acte d'amour suprême de Dieu à notre égard, si bien que la croix, plutôt que d'être un objet de souffrance et de dégradation, devient au contraire un sujet d'exaltation et de glorification. Et il nous revient à nous, si nous voulons participer à la joie du Christ, de porter la même chose. Et il me semble que ça vaut la peine et que ce n'est pas du pessimisme.